Ce que j'essaie de faire sur Volant, c'est de regarder comment la société évolue, évidemment, mais aussi de critiquer un certain nombre de choses comme les idées binaires, comme les idées reçues, comme la course au buzz. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le film Les Méchants, qui sort demain, avec notamment Roman Frécinet, Jimmo, Lidvin Sanier, Omar Sy, Fary, Mathieu Kassovitz, Euslan Foiré, bref, un certain nombre de têtes d'affiche. Et c'est un film de Mouloud Achour, que vous connaissez sans doute, puisqu'il a œuvré énormément de temps au Grand Journal sur Canal+, mais aussi dans la matinale, et qui aujourd'hui a créé Click TV. C'est un journaliste, un animateur de télévision, et désormais un réalisateur de films. Et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le recevoir, parce que c'est une personne que j'admire énormément, que j'apprécie aussi beaucoup. Et donc avec Mouloud, on parle de beaucoup de choses, de son film évidemment, mais aussi de tout ce que ça implique, parce que vous allez voir que, et j'espère que vous irez voir le film, il y a une critique de la société et en même temps c'est une comédie, et j'adore le fait qu'il utilise ce mode de narration pour faire passer des idées qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Mouloud.
Salut.
Comment tu vas?
Comme avant la sortie d'un film intitulé Les Méchants, sur lequel on a mis tout notre cœur et notre âme pour faire rire les gens dans une salle de cinéma. Parce que ça nous manque de rire un peu tous ensemble.
Ça, c'est clair. Et je me pose une question. Tu vois, j'ai vu le film, j'ai adoré.
Merci.
Vraiment. Je me dis, pourquoi, pour ton premier film, tu as décidé de faire une critique de la société qui est... Tu vois, ce que je trouve génial, c'est que c'est une critique de la société et en même temps, c'est drôle. Mais pourquoi tu as décidé d'utiliser ce sujet-là pour ce premier film?
Parce que quand on prend des films comme Marche à l'ombre, Les Valseuses, Rabbi Jacob, ou même Charlie Chaplin ou Mel Brooks, c'est des comédies où il y a un fond sociétal. Ouais. Et que moi, j'arrive pas à rire de choses qui m'ont pas fait souffrir, en fait. Et c'est une bonne façon d'expier les choses. J'ai passé une enfance où dès qu'il y avait une galère, on en rigolait en fait avec mes potes. Mmh. Dès qu'il nous arrive un truc super relou, il y a toujours putain relou, et il y a une vanne qui arrive après, quelle que soit la galère quoi. Et en fait, ce film, j'avais envie de faire une espèce de constat un peu de la société et de se dire, mais plutôt que de faire une œuvre qui tire sur les uns, qui tire sur les autres, j'avais envie de réunir dans une même salle tous les gens, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, de les rassembler juste tous ensemble pour se marrer, quoi. Il y a un mec intéressant, il est pas sur Instagram, mais il avait dit « aimez-vous les uns les autres ». Moi, j'aimerais bien dire « rigoler les uns des autres ».
Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui est au tout début du film. Non, je vais pas gâcher ça, parce que sinon, c'est nul.
Quoi?
Hein?
Vas-y, tu peux.
Le message sur le téléphone, tu sais.
Ah oui, oui. Mais en fait, c'est comme si on se baladait tous avec le diable dans notre poche, quoi. Mmh. On a créé un outil incroyable avec tous les savoirs humains et toutes les langues à portée de clic. Et en fait, on a beau avoir l'outil le plus intelligent du monde, l'humain reste profondément capable du pire, quoi.
C'est clair.
Et je trouve que c'est ce que ça raconte, ce film, c'est de se dire, avec tout ce qu'on a comme outil de connaissance, de vérification de l'information, on emmagasine tellement de choses qu'on vérifie rien, et que deux personnes peuvent être le temps d'une journée les méchants les plus recherchés de France, sans que ça n'émeuve personne, quoi.
C'est une critique aussi des médias. Mmh. C'est quoi aujourd'hui, toi t'es journaliste, c'est quoi ta vision des médias?
Ma vision des médias, c'est que journaliste, c'est un métier auquel je fais une déclaration d'amour dans ce film. Parce que c'est un métier sublime, journaliste. C'est une vocation, que c'est dur, c'est un métier précaire. Et c'est un métier qui est en voie de précarisation parce que l'information est gaffaïsée. Aujourd'hui, une information est relayée... sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes, des algorithmes qui ont besoin de fonctionner à l'émotion pour créer de l'engagement. Et cet engagement polarise la société et donc les articles sont écrits en fonction de ça. Une fois qu'on a dit ça, on se demande une seule chose, c'est quoi un réseau social? En fait, c'est une régie publicitaire qui ne dit pas son nom. Mmh. Et le produit d'appel du réseau social, c'est nous. Quand on pense qu'on est des méga rebelles parce qu'on a exprimé son opinion sur Facebook ou sur Instagram, En fait, la seule truc qu'on a fait, c'est de dire à une régie pub ce qu'on pensait, quels étaient les gens qui pensaient comme nous et qu'est-ce qu'on allait pouvoir nous vendre.
Et en même temps, dans le film, vous parlez vachement de la quête du buzz. Et quelque part, il y a un certain nombre de médias qui surfent là-dessus, tu vois, en particulier sur Twitter.
Mais c'est pour ça que je dis que l'information est GAFAisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, Google possède la majorité du marché publicitaire. Donc les médias sont tenus économiquement par ces boîtes. C'est pas le média indépendant ou le média traditionnel ou la chaîne d'information que je vise. C'est ce système-là. Moi, j'ai du respect pour tous les gens qui travaillent dans ce métier. Qu'ils soient d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, j'en ai rien à faire. C'est la seule chose que j'essaie de dénoncer dans ce film. C'est pas les opinions contraires, c'est un système qui joue sur les divisions et qui joue sur le clash, sur le buzz, alors qu'on est dans une société tellement crispée, dans un moment critique de l'humanité où la démocratie est en danger, qu'il faut être capable d'aller à contresens de cette façon de vendre de l'information et que ça serait bien d'apaiser les choses.
Et pour toi, du coup, comment un média peut réussir à... Est-ce que c'est même possible, en fait ?
C'est pour ça que j'en ai fait un film, en fait. Parce que j'ai pas la réponse.
Ouais.
Moi, j'avais juste envie de transformer ces inquiétudes et ces doutes en expression artistique, en cinéma et en comédie. Je pense que quand Chaplin faisait je sais pas moi, le dictateur... Il n'avait pas la solution à comment est-ce qu'on fait en sorte que l'humain ne devienne pas une horreur nazie.
Ouais, bien sûr.
Il n'avait pas la solution.
Clairement. Il y a aussi une critique des visions binaires.
Ouais.
Des experts. J'aime bien qu'on revienne là-dessus sur, tu vois, les experts autodéclarés. Il y a cette phrase en particulier de « Moi, je suis expert de tout, je sais plus lequel. »
Ouais, je suis expert de tout, on m'invite sur tous les sujets.
C'est ça.
On l'a vu là récemment, les experts du Covid sont devenus des experts de l'Afghanistan.
Ouais.
Après, ils sont devenus experts en météo. Mais au-delà des gens qui sont sur les plateaux dans les chaînes d'info, c'est même nos amis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui à quel point quelqu'un qui fait le métier d'influenceuse, qui est un métier que je respecte, c'est un métier comme un autre, est capable dans la même journée de poster une photo d'un drame humain en Palestine et juste après, il y a un code promo. J'arrive pas à comprendre dans quel monde on est, en fait. Et ce que je me pose derrière comme question, c'est pourquoi est-ce que la parole de certaines minorités n'est représentée que là ? Pourquoi est-ce que les médias font pas leur job en donnant la parole à tout le monde, à toutes ces sensibilités-là ? Moi, je ne fais que poser des questions à travers ce film. J'ai aucune réponse. Mais je me dis juste que plutôt que de critiquer cette influenceuse qui exprime quelque chose sincèrement, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que leurs paroles ne soient entendues, certaines informations ne soient entendues que là ?
Clairement. Et du coup, comment toi, en tant que journaliste, t'arrives à gérer le fait que tu invites des gens qui soient pertinents, tu vois, qui soient des experts, entre guillemets, sur leur domaine ? Enfin, il y a beaucoup d'artistes, évidemment, mais comment tu gères cette problématique, au final, de gens qui s'auto-exposent ?
Tu veux dire, moi, mon métier de journaliste ?
En tant que journaliste, toi, ouais.
Déjà, je suis pas journaliste. J'ai pas la carte de presse. J'ai été rédac chef de plein de journaux, mais j'ai jamais voulu appartenir à cette caste.
D'accord.
Moi, je suis un passeur. Donc, quand je fais clic, je me mets en retrait et je pose des questions à des gens qui ont travaillé sur des sujets ou qui produisent des œuvres. Donc, je me repose sur leur savoir à eux, sur un sujet précis. Mais je demande pas à n'importe qui l'avis sur n'importe quoi. J'ai un respect infini pour les artistes que je reçois. Et je considère que tout le monde chez nous est reçu à la même enseigne, qu'il soit connu, pas connu, en devenir, qu'on considère trop âgé ou trop jeune. Et c'est mon métier, je le situe d'une manière vraiment très très basique, quoi. Je suis très en retrait dans les interviews sur Clic. Je suis vraiment là pour mettre des gens en avant, que je sois d'accord ou pas. Moi, je donne une proposition de voilà, j'ai envie de vous faire présenter cette personne. Et je véhicule jamais mes engagements en public. Mes engagements politiques, ils sont dans l'urne, tout simplement. Donc j'ai malheureusement pas la prétention de vouloir peser sur quoi que ce soit dans le débat public. Moi, je vais juste... ma mission est artistique, quoi. Je vais pas faire de politique, ma mission est artistique.
Ouais. Et en même temps, c'est marrant. Alors, d'abord, ce que tu dis, ça résonne vachement parce que moi, je parle que de liens, donc forcément, ça résonne. Et en même temps, pour moi, tu vois, quand je pense à mon podcast, pour le coup, je considère que c'est un acte politique en tant que tel. C'est pas de la politique, tu vois, parce que...
Mais chaque prise de parole est un acte...
Une prise de parole, c'est une politique. Enfin, c'est un acte politique.
Chaque prise de parole est un acte politique. Moi, ils me font doucement marrer, les gens qui nous disent « Oh, le rap, c'était mieux avant. Aujourd'hui, le rap, il est pas politique. » C'est pas parce que quelqu'un dans ses textes ne dit pas « va lire un bouquin à Frantz Fanon mais si on le voit dans son quartier entouré de potes qui sont là tout le temps et de qu'on comprend à travers ses textes qu'il y a du nihilisme, du désespoir et qu'on lui a mis dans la, qui a juste des envies matérialistes, ça dit beaucoup plus de la jeunesse, de l'état dans lequel elle est, que de quelqu'un qui va faire une thèse. Donc tout est politique. Une blogueuse qui parle de mode, c'est politique. Quelqu'un qui rêve d'accéder à ce point-là, à la consommation, et qui devient un outil de communication pour des marques, bah, c'est un fait politique. Mmh. Je trouve que par exemple, une Lena Situation, c'est quelqu'un qui fait évoluer les mentalités dans un sens tellement positif, dans la représentation, que c'est politique et que c'est, je trouve que je voudrais saluer cette fille parce qu'elle a été victime de beaucoup de haine et je la salue parce qu'il y en a peu comme elle et qu'on est il y en a peu comme nous et qu'on n'a pas à se tirer les pattes dans les pattes.
C'est clair. Et en même temps, enfin, tu vois, je suis aussi assez admiratif de cette fille. Et en même temps, pour être tout à fait sincère, je vais faire une déclaration d'amour, mais je suis hyper admiratif aussi de ton parcours à toi.
Oh, tu merci. Vois,
parce que je trouve que c'est admirable. Enfin, tu vois, de venir d'un milieu qui était plutôt populaire et d'arriver comme ça à grandir, etc., par la force de tes bras, je trouve ça juste énorme. Tu vois, j'ai fait un chemin un peu similaire à moins, enfin tu vois, moins sur la télé, etc. Mais je vois la difficulté du truc. Et du coup, je me demande dans le film comment ça a joué comment ta construction a joué sur le film.
En fait, le film il est très autobiographique et il y a dans le film beaucoup d'étapes de ma vie, beaucoup de moments marquants, beaucoup de gens qui m'ont marqué, beaucoup de références à des
Il y a des tonnes de références
à des moments. Et en fait, l'idée, c'est de ne jamais rien renier et de ne jamais oublier, en fait. Je pense qu'on nous raconte à travers le mythe du self-made man ou de la réussite sociale quelque chose qui fait beaucoup de mal aux classes populaires. Beaucoup, beaucoup de mal. On s'épanouit pas qu'à travers la réussite. Et malheureusement, le système économique, il fait de la sorte où faut pas mentir aux gens. Tout le monde ne peut pas réussir.
Enfin, réussir de cette manière-là, en tout cas.
Réussir de... Et j'aimerais bien ne pas rentrer dans ce jeu de l'exception. J'ai pas à vendre ma misère, j'ai pas à vendre mon passé, j'ai pas à glorifier. Il y a une espèce de marketing de moi, j'ai galéré, auquel j'adhère pas, quoi. Moi, j'ai trop de respect pour la dignité des gens qui se lèvent le matin, qui nourrissent leur famille, qui tracent, pour ceux qui font des trucs même des fois illicites parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai trop de respect pour cette dignité-là pour en faire un fonds de commerce, en fait. J'ai jamais raconté tout ça. Je me la raconterai jamais avec ça. J'ai grandi dans le 93, mais moi, je faisais partie des mecs cool. Et il y en a plein, des mecs comme moi. On est même la majorité. Les gens les moins cools que j'ai rencontrés n'étaient pas en banlieue, en fait. J'ai eu chance de passer de l'autre côté du périph et de franchir certains plafonds de verre. Et croyez-moi, les gens les moins cools que j'ai rencontrés vivent pas en banlieue.
C'est clair. Et en quoi du coup le film il est autobiographique, enfin, quand tu dis ça?
Parce qu'il y a un peu de moi dans les deux personnages principaux. Dans le personnage du jeune vendeur de la boutique, dans la télévision, et il y a un petit peu de gens de ma famille, de mon entourage, il y a plein de choses en fait dans ce film.
C'est clairement un film familial.
C'est un film très familial.
Quand on connaît un petit peu ton entourage, clairement c'est un film familial. C'est vraiment un film où t'as tous tes potes, quoi, quasiment.
C'est encore plus dur en fait quand c'est des gens dont on est proche. c'est qu'il y a une différence entre si demain j'interviewe un artiste et que je l'avais beaucoup reçu dans mon émission, qu'il y a forcément une connivence qui peut créer à l'antenne, et d'aller voir cette personne qui est sur sa trajectoire professionnelle et lui dire bah tiens, j'ai écrit un film, est-ce que tu veux jouer dedans? Mais le jour où on doit passer cette étape, on doit être irréprochable en fait.
Ouais, c'est clair.
Donc il y a une exigence qu'on s'impose entre nous qui fait que ça rend les choses très très fluides. Typiquement, Omar Sy, je me suis fait des nœuds au ventre avant qu'il voie le film.
J'imagine.
Quand il a eu le lien du film, quand il l'a vu, j'en dormais pas en fait. Je me dis mais qu'est-ce qu'il va en penser? Qu'est-ce qu'il va en penser Omar?
Alors que tu le connais depuis tellement longtemps.
C'est parce que je le connais depuis tellement longtemps et que j'ai un respect infini pour lui, pour sa famille, pour toutes les valeurs qu'il représente, pour... et puis faut pas oublier que le travail qu'il faisait avec Fred sur le SAV délivrait une telle qualité, une telle constance. Il faut être un génie. Il y a un moment où les faits sont là. Le mec, il a prouvé à quel point il était fort dans un domaine. Quand il arrive au cinéma, il encore plus, et sa carrière ne fait que commencer. Donc quand je le dis, j'ai pas peur de démo, c'est une légende vivante, accepte de jouer dans le film et qu'on attend son feedback quand il l'a vu, on dort pas.
Ouais, j'imagine.
Et là, c'est plus Omar, mon pote, quoi. C'est le jugement d'Omar, quoi.
Le professionnel, quoi.
Et il a. Bon, vraiment, je le remercie encore d'avoir accepté de faire le film. Ça a été. Mais comme il y a eu des versions de scénario qui ont pas été validées par des comédiens, on a retravaillé. Donc, c'est pas un film de potes, c'est un film de gens qui ont envie de faire des choses ensemble.
Un autre sujet que tu critiques vachement, c'est les a priori. Donc, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, pour moi, en tout cas, il y a la recherche du buzz, il y a les visions binaires, et il y a aussi les stéréotypes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Qu'est-ce qui te... Pourquoi t'as voulu critiquer ça? Enfin, qu'est-ce qui te...
Parce que ce mot méchant, par exemple, quand une femme demande l'égalité salariale ou l'égalité de traitement en entreprise, on dit elle est folle, elle est méchante, elle est hystérique. Quand il y a une grève et que le train il est en retard, c'est le cheminot qui lutte, qui est méchant. Parce qu'on on a raté notre train. Et il y a eu une espèce d'inversion comme ça. Quand des gens étaient dans la rue pour protester contre la hausse du carburant, tout d'un coup ils étaient méchants, mais personne n'a expliqué que, mais en fait ces euros-là, c'est des gens qui prennent leur voiture pour bosser loin, parce que l'usine d'à côté a fermé et qu'il faut aller ailleurs. En fait, ces euros-là, ils comptent. Quand on enlève 5 euros d'APL en ricanant, genre c'est rien 5 euros, non en fait.
C'est énorme.
C'est 5 euros dans la vie d'un étudiant, c'est pas rien. Et quand les étudiants sont dans la rue et qu'ils font la queue des heures pour avoir à manger, on les traite de méchants étudiants. Et j'avais envie de rassembler tout ça, toute cette frustration, de se dire mais j'en ai marre qu'on criminalise les galériens, quoi. C'est personne ne veut galérer. Personne. Je connais personne qui dit moi je suis chômeur, c'est incroyable. Personne.
Ça c'est un vieux. En plus, ce que tu dis, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que si. En fait, je vois tellement de gens qui pensent qu'il y a plein de personnes qui profitent des APL, profitent de machin, profitent de trucs. Mais personne, en vrai, j'ai jamais rencontré personne qui dit ça non plus, quoi. Tu vois, je sais pas si personne.
Personne. C'est-à-dire que même si vous entendez un jeune qui vous dit moi j'en ai rien à foutre, j'ai le chômage, mais c'est une posture.
Bien sûr.
C'est une posture. Il faut voir derrière le discours. Cette personne a le droit d'être digne et dire j'en ai rien à foutre. On peut laisser leur dignité aux gens. Moi je l'entends. Quand quelqu'un me dit moi je m'en bats les couilles, j'ai le chômage, j'attends. Mais c'est moi j'entends juste il faut que je trouve un travail qui me plaise.
Bien sûr.
Les gens ont le droit en fait de faire commandant de leur destin, quoi. Et ça il y a des catégories de la population à qui on le donne pas, ce droit.
Non, ça me fait penser à cette phrase de Macron, je vous trouve un job de l'autre côté de la rue, tu te souviens de ce truc?
Mais ça, ce truc de Macron, c'est une phrase de politique.
Ouais, bien sûr.
Elle aurait pu être prononcée par Rocard, elle aurait pu être prononcée par Mitterrand, par n'importe qui, en fait. Le politique, il est dans son rôle de faire de la politique et de faire des phrases comme ça. Mais ça traduit pas le fond du problème. C'est que on est dans un pays qui exclut les gens qui décrochent. Alors qu'à un moment, on devrait tous raccrocher les wagons et de se dire, bon, je suis même pas en train de parler d'un projet communiste ou socialiste. Hein. Je suis même pas là-dedans. Parce que pour moi, les socialistes ont fait tellement de mal à la France et au quartier que j'ai pas d'empathie pour eux. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est au moins dans le discours et dans la représentativité, laisser leur dignité aux gens. Quoi.
Et tu parlais du titre, Les Méchants. Comment ça t'est venu? Du coup, t'as pensé au scénario et ensuite le titre t'est venu ou t'as pensé au titre et ensuite...
Le premier titre du film, c'était Les Barbus.
Ouais, logique.
Ceux qui verront le film comprendront. Après, il y a eu La Boule du Dragon. Parce que la boule de Sangoku a pris une importance qu'on sous-estimait dans le film. Et en fait, Les Méchants, c'est venu parce que j'étais dans un train et il y avait une petite fille qui chantait Les Méchants de Slenfoiré. Et j'avais envie de dire, mais est-ce que un jour tu comprendras ces paroles, ma fille? Ouais. La grosse moula poursuivie par les méchants. C'est marrant, quoi. Ce n'est pas des paroles pour un enfant.
Non, ce n'est pas des paroles pour un enfant. et du coup, cette méchanceté. En fait, si tu veux, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la méchanceté, donc clairement, elle existe dans la société et en même temps, c'est ce que tu disais, elle n'est pas exactement là où on la croit, c'est-à-dire qu'en fait, on la projette sur des stéréotypes, tu vois, que ce soit des Arabes, des Noirs, ce que tu veux. Et en même temps, la réalité, c'est que ce que tu disais, souvent la méchanceté, elle n'est pas exactement là. Elle est souvent, on parle de la violence des cols blancs, mais cette violence des cols blancs, elle existe franchement, quoi. Tandis qu'il y a d'un côté, j'ai l'impression,
mais les cols blancs aussi subissent de la violence.
Bien sûr.
Les gens dans la finance subissent des violences pas possibles. Ils sont sous pression. Ils sont ils sont déshumanisés. Le culte du résultat. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que le malaise, il est palpable à tous les étages de la société, quel que soit le niveau social. Mais les gens sont dans une pression. Et j'ai envie d'exclure personne, en fait, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche.
C'est le mot de la fin, d'ailleurs.
C'est le mot de la fin, ouais. Ouais.
C'est clairement ce que tu essayes de faire passer, quoi, dans l'absolu. Vas-y.
Il y a un moment, l'humanité devrait s'affranchir juste de ces considérations-là. Nous, on essaie juste d'humaniser tout le monde.
Moi, ce que je trouve bien, mais après, c'est mon avis, et voilà, mais c'est que j'ai la sensation que c'est un film qui va générer des conversations, en fait.
J'espère.
Parce que derrière, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Après, je ne me rends pas bien compte, parce que tu vois, je peux pas mettre à la place des gens, mais j'ai la sensation que... tous ces sujets que tu abordes de manière comique, mais qui sont des vrais sujets de société hyper profonds, bah du coup, le fait de les aborder de manière comique, ça permet de faire passer l'information de manière différente, tu vois, parce que c'est vrai que tu vois, il y a des podcasts comme le mien ou d'autres médias qui sont un peu plus sérieux, on va dire, et qui sont pas écoutés par tout le monde nécessairement. Et du coup, les comédies, ça permet de faire passer des informations hyper profondes. Enfin, en ça, moi, je trouve que ce que tu disais au tout début, mais la comédie, c'est un super support.
L'émotion. Ce que dénonce le film, c'est que on a transformé l'information en émotion. Nous, on utilise la même émotion qu'est le rire pour faire passer notre message. Mais moi, je vais au cinéma pour avoir des émotions. Et pour suivre les aventures de Thanos. Mais c'est...
Et toutes les références...
Qu'est-ce que c'est bien Avengers, quand même.
C'est quand même pas mal.
Qu'est-ce que c'est bien. Mais vraiment, Avengers Infinity, c'est incroyable. J'en peux plus de ce film, tellement je l'aime. Mais vraiment.
On est très fan. On est très fan.
Ouais.
Toutes les références...
Y a le doigt de Thanos. Hein. Y a le doigt d'honneur de l'infini dans le film.
Ah, j'ai pas fait gaffe.
On a repris le gant de
l'infini. Ah, mais si. Non, mais j'ai adoré les références. Mais en fait, je sais même pas. Enfin, bon, tu peux comprendre le film sans connaître toutes les références. Mais c'est vrai qu'il y a des tonnes de références de pop culture. C'est hallucinant, quoi.
Mais Vincent Lindon a vu le film. Il nous a dit, ça me rappelle La Cité de la Peur. Et La Cité de la Peur, c'était pareil, c'était un film qui avait un milliard de références.
C'est clair.
Que j'adore revoir. Et j'aimerais bien créer un film comme ça pour les plus jeunes et les gens de ma génération, en fait, qu'on puisse revoir et kiffer, quoi. J'aimerais bien que les gens se réunissent entre copains, entre copines et se fassent des soirées méchantes. C'est rigolo.
Ça serait pas mal. Et ce truc de je suis Patrick, c'est, ça t'est venu d'où ? Ça t'est venu de...
Bah, je suis Patrick, c'était après Je suis Charlie.
Ouais.
Et il y a eu plein de je suis dans tous les sens. Moi, j'étais allé manifester à la manif de Charlie. Et puis après, les gens ont fait des je suis ceci, je suis cela. Et moi, j'avais envie que ça aurait été bien qu'à un moment, on dise je suis français. Avec tout ce que ça englobe d'être français aujourd'hui. Et je suis Patrick, c'est ça en fait. Ça englobe ceux qui sont Charlie, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. À partir du moment où on est dans ce pays et on partage les mêmes valeurs.
J'imagine que tu l'as fait exprès, mais je sais pas en fait. Le fait d'utiliser des acteurs issus de l'immigration, mais en même temps, tu vois, le loser entre guillemets pour le coup, c'est un blanc. Est-ce que c'est un truc que tu as voulu faire exprès ou c'est le hasard des castings et c'est comme ça que ça s'est construit ?
Franchement, pas du tout. Pas du tout.
Tu n'y as pas pensé en fait ?
J'y ai pas pensé. J'ai grandi avec des gens de toutes les origines en banlieue. Moi, le seul clivage que je vois, c'est riche-pauvre en fait.
Ouais.
Quand on est pauvre, on est dans la merde ensemble. Quand on. Et on fait pas trop gaffe. Enfin, en réalité, j'ai pas cette grille de lecture. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est générationnel, que les jeunes ont de moins en moins une grille universaliste.
Ah ouais ?
On a tendance à mettre les gens les uns contre les autres, en fait.
Ça, c'est clair.
Et il faut juste rappeler que il y a eu des vagues d'immigration différentes, que ça s'est pas arrêté à l'Algérie aux années 70. Et que les quartiers les plus pauvres sont toujours des quartiers d'accueil et que ça se brasse et que ça change, quoi. Donc il faut être capable de composer avec tout ça.
Mais par contre, ce qui est très cool, c'est que pour une fois, les personnes issues de l'immigration n'ont pas des rôles, tu vois, stéréotypés. Enfin, alors tu l'as pas fait exprès, donc du coup, voilà, mais en même temps...
Parce que c'est très facile de tomber dans la caricature et de faire rire les gens avec l'accent de ses parents. Moi, l'accent kabyle, l'accent algérien, je trouve que c'est pas un accent rigolo. Je vois pas pourquoi ça ferait rire. Je vois pas pourquoi l'accent sénégalais, l'accent malien, déjà dire l'accent africain, c'est pas possible,
n'est-ce pas?
Mais c'est aussi à nous en fait de dépasser ça. On peut pas critiquer sans cesse les autres pour produire le cliché qu'on dénonce. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont pires que ce qu'ils critiquent dans leurs actes. Les premières personnes sur qui ils tirent sont des gens issus de l'immigration, alors qu'ils en viennent et qu'ils jouent les antiracistes. Et je pense qu'on a quand même un petit devoir de réserve on a beau passer, même si on s'aime pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de se tirer dessus en fait, en public en tout cas.
C'est clair. Et cela dit, tu critiques vachement dans le film, tu vois, l'extrême droite et les accents, justement. Enfin, tu vois, il y a...
L'extrême droite qui rigole avec les accents, les bobos qui en font des films, des banlieusards, pour aller gagner des prix à Cannes. Tout le monde. Je critique tout le monde, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui soit pas d'accord politiquement avec moi. Quelqu'un qui me dit... pour moi l'islam est un problème, l'immigration est un problème, ce que tu représentes, Mouloud Achour, est un problème, je me dis bon bah c'est pas grave, va voter, et j'irai voter, et puis on verra dans quel pays on est. Mais je pense qu'on verra dans quel pays on est si tout le monde va voter. On peut pas se fier au bruit médiatique, parce que encore une fois les réseaux sociaux biaisent
totalement
ce qui intéresse les médias. C'est sûr qu'une parole raciste, une parole de islamophobe, va fonctionner sur les réseaux sociaux parce que ça va créer de l'indignation. Mais je pense pas que qu'en France, d'ailleurs les régionales l'ont prouvé. Je pense pas que ce soit la réalité de la France.
C'est difficile de dire en fait. Tu sais que c'est assez étrange. J'arrive plus très bien à savoir moi-même où est-ce qu'on en est, parce que effectivement entre les partis extrêmes qui utilisent vachement bien les réseaux,
Parce qu'en réalité, c'est ça. Et les utilise, il y a vraiment une méthodologie. Je veux dire, c'est pas juste je fais un tweet, machin. Il y a une méthodologie pour biaiser les médias. Enfin, je veux dire, concrètement. Et la réalité des Français.
Mais ces parties-là peuvent vous dire aussi, pendant des années, c'était le camp du bien qui se moquait de nous dans les médias mainstream. Donc on a créé aussi de la frustration. Ces gens-là, ils viennent pas de nulle part.
Ouais, c'est clair.
Et je pense que on est dans un moment de crise démocratique. Et je trouverais ça juste bien qu'à un moment on dise OK, les règles qu'on met au CSA. De dire bon bah temps de parole égal pour chaque candidat, ben en fait on fasse pareil sur les réseaux sociaux. On peut avec juste un bouton couper la politique. Et moi je mettrais juste des liens sur les programmes. Allez lire les liens. En fait, prenez votre carte d'électeur en 3 clics et allez voter.
Ouais. Ah bah, ça me fait une connexion dans ma tête, mais tu vois qu'elle est un peu chelou quand même. Mais ça fait penser à l'annonce de, je sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs ce week-end, de la Chine. Qui limite l'utilisation des jeux vidéo aux enfants à 3 heures. Comme c'est des trucs avec des caméras, en fait, ils sont capables de dire reconnaissance faciale, et c'est 3 heures maximum. Je sais plus exactement si c'est par jour ou c'est pour le week-end. Je sais plus exactement, mais du coup, on sort en dictature. Tu vois, on n'est plus du tout sur.
Mais c'est
modèle.
Comme les gens qui parlent de dictature en ce moment.
Ouais.
À partir du moment où t'as une carte bleue, où t'as un iPhone, t'es scanné. À partir du moment où tu es sur un réseau social, on sait ce que tu veux acheter. La dictature, en fait, elle est économique.
Grave.
Tu n'es qu'un produit, mon pote. T'es rien d'autre. Donc redescends et consomme. Voilà.
C'est
le but de la fin de la journée, c'est que tu ailles acheter des slips sur Amazon.
Non, mais en fait, c'est horrible parce que c'est hyper vrai. Enfin, ce que je trouve. Ouais, triste, quoi. C'est vraiment triste. Mais c'est le fonctionnement de la société. Quand tu dis, enfin, cette histoire de nuance, est-ce que, enfin, tu penses que c'est uniquement lié aux réseaux sociaux, le fait de qu'on manque de nuance?
Non, c'est aussi vieux comme l'humanité, quoi. Le plus vieux média du monde, c'est la rumeur. C'est pas nuancé, la rumeur.
C'est vrai.
Donc ça fait partie du fonctionnement de la femme et de l'homme d'avoir. Toujours envie d'écouter l'information avec laquelle on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a un manque de nuance. C'est que, imagine demain tu divorces. Il n'y a pas une méchante et un gentil. Ou un gentil, une méchante. Un méchant, une gentille.
Bien sûr.
Ou deux gentils ou deux méchantes. Chacun a ses torts. Chacun a déconné. Et c'est... Personne ne peut raconter une information sans la nuancer. Tu vois. Donc, par contre, ce qu'on va vouloir entendre tout de suite, c'est qui le gentil, c'est qui la méchante.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu vois, moi, c'est marrant, j'aimerais bien, je te dis ça comme ça, mais en même temps, que dans les médias, justement, ils arrivent à nuancer. C'est-à-dire que quand ils parlent, je sais pas, souvent, pour rester sur le sujet de l'immigration, mais ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, c'est que la majorité des médecins, tous ces gens qu'on entendait parler, ils étaient aussi issus de l'immigration. Et en fait, tu vois, à ce moment-là...
Mais en fait, moi, je pense que ce truc de issu de l'immigration, il y a un moment, il faut le lâcher, quoi. On est issu de la France.
Ouais.
Moi, je suis né en France.
Moi aussi.
Ma mère est née en France. Mes grands-parents viennent d'Algérie. Donc, il faut juste accepter que la France a ce visage-là. C'est juste une façon d'avancer tous ensemble, en fait. Il y a qu'est-ce qui va se dire maintenant, on va se dire issu de la campagne, issu de la ville, issu de la périphérie.
Mais en même temps, ouais.
Voilà.
Mais en même temps, je rigole. Et en même temps, il y a ce bouquin, je sais pas si tu l'as lu, de Jérôme Fourquet, qui s'appelle L'archipel français, où il parle justement de cette archipélisation et du fait qu'on a, ce que font les réseaux sociaux, en fait, c'est une conséquence, c'est qu'on est de plus en plus en archipel, c'est-à-dire que chacun vit avec sa petite communauté avec laquelle il est d'accord et dit merde à l'autre parce que c'est effectivement le méchant, quoi.
Bah parce qu'on est tous polarisés, parce qu'on est que des cibles publicitaires, on est que des cibles commerciales. Et nos idées nous servent à ces régies publicitaires déguisées en réseaux sociaux de savoir quoi nous vendre.
Et si, je ne sais pas si tu as des conseils, mais si tu devais dire, admettons que tu parles avec une personne, mais admettons un gamin, tu vois, de 14 ans ou autre, tu lui dirais quoi? Enfin, comment tu fais pour...
Je lui dirais, fais comme Son Goku.
Nique le game.
Je dirais, fais comme Sangoku, mon pote. Deviens toujours plus fort. Quelle que soit l'adversité, fais en sorte de comprendre la personne que tu as en face. Même si au premier abord, c'est un méchant, il a aussi ses raisons. Sangoku et Satan Petit Cœur sont devenus potes.
C'est vrai.
Et il est même devenu pote avec Vegeta. Donc tout est possible.
Ouais. J'adore la référence à Dragon Ball, je sais pas. Je me rends pas bien compte. Si c'est un truc d'âge, je sais pas jusqu'à quand, parce que moi je suis plus, enfin je suis peut-être plus vieux que toi, je pense, mais je sais pas jusqu'où ça a été diffusé ce truc.
Dragon Ball, moi je pense que si un jour t'as des enfants, ils regarderont Dragon Ball. Hein.
Tu penses?
Évidemment.
Ah, c'est possible. Bah, si tu leur montres quoi, surtout. Mais...
Ah ouais, si un jour j'ai une fille ou un fils, je regarde Dragon Ball avec, direct.
J'avoue, ça peut, en plus ça donne l'occasion de le regarder à nouveau quoi.
Bah ouais.
Ça c'est assez cool.
Trop cool.
C'est quoi la. Est-ce qu'il y a une question, ou c'est quoi la question qu'on ne te pose jamais sur ce film, qu'on ne t'a pas posée, et que tu aimerais bien qu'on te pose?
En fait, non, ce n'est pas une question. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on fait les projections. C'était une maman, une jeune retraitée, qui est venue nous voir en disant « Merci de nous avoir défendus. » Et elle venait ni de quartier, elle n'était ni issue de l'immigration. Elle m'expliquait que c'était une jeune retraitée qu'elle a cotisé toute sa vie et que là elle galère mais qu'elle était contente d'être venue au cinéma avec son fils, qu'elle pensait qu'elle allait rien comprendre, et à la fin elle nous a dit merci de nous avoir défendus. Et ça, c'était un beau compliment parce que ce film il vise tout le monde.
Et ça, c'est beau parce que ça veut dire que même moi, je me suis posé la question justement. Il y a une personne qui, parce que j'ai défendu le film par ailleurs, tu vois, par WhatsApp et tout. Et il m'a dit, ah, je vais emmener ma grand-mère, etc. Et je me suis dit, bah attends, est-ce qu'elle va comprendre le film ou pas?
Bah, je crois que ouais.
Et en fait, ouais.
Je crois que ouais, parce qu'on a tous été à un moment accusés pour un truc qu'on n'a pas fait, quoi. Et on a peut-être tous aussi été accusés de lâcheté quand on voulait garder le silence pour protéger un ami. Quand tout le monde nous demandait de l'accuser. Alors que c'est plus courageux de dire, ok, je sais que vous voulez tous me tirer dessus, vous voulez tous que je lui tire dessus, mais venez, on laisse retomber le truc, quoi.
Non, mais ouais, mais c'est... En fait, c'est tellement juste, mais du coup, enfin, ce que je me dis, je vais te mettre la pression un coup, mais en fait, je me dis, enfin, c'est vraiment réussi.
Merci.
Et du coup, je me dis, mais c'est quoi le prochain step, quoi? Enfin,
ça, bah, évidemment, en fait, c'est un film en deux parties, donc il y a les méchants, sur la qui est plutôt masculin, sur la toxicité de l'information. Puis ça parle également de masculinité toxique. Le film, c'est aussi un des sujets du film. Il y a un moment où il y a un dialogue sur la masculinité avec des mecs qui n'ont rien compris aux femmes,
hein. Grave.
Avec la masculinité, ça se termine par c'est la moustache, donc les mecs n'ont rien compris.
C'est clair.
Et c'est pour moi un des dialogues clés, en fait, quand il dit c'est quoi la féminité. Donc il donne une définition incohérente de la féminité pour avoir une version de la masculinité qui est encore plus incohérente. Et le deuxième, j'aimerais bien le faire sur les femmes, ça s'appellera Les Gentilles. Donc il y a les méchants et les gentils.
Ah,
c'est un film en deux parties, en fait.
D'accord.
Ouais.
Ah ouais, donc tu l'avais déjà en tête.
Ouais,
enfin,
ouais.
Tu l'as déjà en tête.
Ouais, ouais.
Ah, excellent.
C'est un film sur la relation amoureuse.
Ah ouais, donc tu l'as vraiment déjà en tête, c'est-à-dire que t'as déjà bien le truc.
Ouais.
Ah, énorme.
Ouais.
Excellent. Waouh. Et c'est vrai que...
Bah c'est comme dans une histoire amoureuse, il y a toujours quelqu'un qui est le méchant ou...
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Donc on est toujours sur ce truc de la vérité, chacun sa vérité, quoi.
Tu connais cette histoire, c'est en fait une voiture qui est peinte à gauche en noir, à droite en blanc, et donc il y a un accident, et il demande aux gens, les témoins, de quelle couleur était la voiture. Et donc, bah, t'en as la moitié qui disent qu'elle était noire, l'autre moitié qui disent qu'elle était blanche. Et les deux ont raison, en fait.
Bah ouais.
Mais tu vois, parce qu'il manque une vision d'ensemble où, en fait, la voiture, elle était bicolore.
Exactement. Et j'aimerais bien parler de la féminité sans que la femme ait à se positionner par rapport à l'homme. On positionne souvent le dominé par rapport au dominant. Et dans tous les domaines, hein.
Ouais, bien sûr.
Et j'aimerais bien parler de la femme sans avoir à la positionner par rapport à l'homme, mais de dire à quel point à un moment c'est le regard de l'homme qui est éclaté au sol.
Et en même temps, je trouve ça franchement, parce que c'est un sujet que j'aborde énormément, hyper courageux pour un homme d'aborder le sujet.
Sauf que moi, j'ai pas la prétention de faire un film. C'est pas un film sur le féminisme, c'est un film sur les relations amoureuses. Mmh. Donc, y a plein de gens qui voient des références à des écrits féministes dans Les Méchants. Il y en a plein. Ou même dans d'autres genres, sur la scène avec Romain Edjimo, il y a plein de gens qui pensent à Anna Arendt. Mmh, mmh. Ça fait partie des références, comme Deleuze fait partie des références, comme Guy Debord fait partie des références, comme La Caution. C'est un espèce de milkshake comme ça.
Ah ouais, t'as autant des philosophes que Booba, enfin Booba, l'ancien groupe de Booba en tout cas.
que Lunatic, ouais. Et le deuxième film sera un peu dans cet esprit-là, quoi. Mais... moi, ce qui me fascine, c'est à quel point, mais comme dans le premier, quoi, à quel point le regard qu'on pose sur quelqu'un peut tuer, peut faire mal. Et sur les filles, c'est pareil, c'est toujours le regard du dominé sur le dominant, quoi. Mmh. Le dominé dans Les Méchants, c'est l'information, et le dominé, c'est Patrick et Sébastien, c'est le peuple. Mmh. Et les dominants, c'est ceux qui jouent avec l'information.
Patrick et Sébastien.
Patrick et Sébastien, j'étais obligé.
Ouais, j'avoue.
Mais non, mais c'est la télévision.
Ouais, toujours.
Patrick Sébastien, c'est le mec qui incarne la télévision, qui fait venir des artistes incroyables en plateau. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve que c'est un beauf ou pas. Et il était populaire, et c'est grâce à lui que j'ai découvert des super artistes. Albert Dupontel, moi, je l'ai découvert grâce à Patrick Sébastien. Danny Boone, il a été découvert là-bas. Mmh. Aujourd'hui, Adieu les cons, c'est un film qui explose tout. Dupontel, quand il était humoriste, c'est le papa. Mais vraiment, Dupontel, les gens l'oublient, c'est le papa de tellement d'humoristes français que j'avais envie de dire, bah voilà, on est capable de rendre hommage à la culture populaire française sans juger les gens ou les traiter de beauf.
Il a vu le film, tu sais, ou pas? Enfin,
non, il l'a pas vu, mais quand je lui ai dit, j'ai fait un film, les héros, ils s'appellent Patrick et Sébastien, il m'a dit, t'es un connard, tu m'as pas fait jouer dedans. Et après, il m'a conseillé un régime, donc j'ai pas compris la cohérence, mais. Il m'a tout de suite attaqué sur mon poids. Je lui ai dit, écoute, tu trouves pas de gonzesse comme ça. Je dis, écoute, ça me donne envie d'écrire un film sur les femmes, tout ça.
C'est clair. Toi, ça te semble évident, apparemment, mais t'aurais pu aussi décider de faire un pur divertissement qui n'a pas de message particulier. Enfin, j'ai la sensation que la majorité des films, il n'y a pas vraiment de message, quoi. Enfin, tu vois, c'est...
Oui, mais en fait, moi, j'ai du mal avec les gens qui se revendiquent engagés, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est être connus. Moi, j'ai préféré fermer ma gueule et faire un film quand j'étais connu et que les gens voient l'engagement. J'ai pas à vendre ça, quoi. Et pour certains, c'est un film engagé parce qu'ils comprennent le message. Il y a des gens qui passent totalement à côté.
Ah oui?
Ouais, il y a des mais c'est passé. Il y a des gens qui passent à côté, mais c'est normal. C'est dur de se remettre en question. Il y a des journalistes pour qui le travail de remise en question, il est trop dur, quoi. Et qui ne comprennent pas cette génération. Moi, je l'ai vécu quand j'étais dans la presse rap. Il y avait des journalistes plus âgés qui ne voulaient même pas entendre parler de la presse rap. Pour qui c'était... ça n'existait pas, quoi. On n'était pas des journalistes. On était des mecs qui avaient de la chance et qui interviewaient leurs copains. Moi, il y a un truc, à chaque fois, je trouve ça, mais tellement... en fait, je réponds même plus tellement je trouve ça... c'est même pas raciste, c'est juste... un manque de culture en réalité. Quand tu dis ouais, qui reçoit ses copains? Mais je reçois pas mes copains, je reçois des gens qui touchent des millions de personnes.
Bien sûr. Et puis même, il y a des gens que tu reçois, ça n'a rien à voir. Enfin...
Oui, mais quand tu t'appelles Mouloud et que tu reçois un mec qui est, disons-le, qui est noir, on va dire, il reçoit son copain.
Ah ouais?
Mais ouais.
Ah, on en est là.
On en est là. Welcome.
Ah putain.
Ouais, ouais. Mais c'est pas grave.
C'est ouf parce que moi, j'ai la sensation...
Moi, je vois plus de copains du 7e arrondissement tout le temps dans les mêmes émissions ensemble.
Bah oui. bah c'est clair, mais très largement, quoi.
Bah oui, largement. que l'inverse. Il est plutôt là, le communautarisme à la télévision.
D'ailleurs, quand tu parles de ça, d'utiliser l'engagement pour se faire valoir, il y a une critique aussi dans le film de ça au tout début, en fait. C'est même l'une des premières scènes, en réalité. Tu peux raconter pourquoi tu l'as positionné là?
C'est quelqu'un qui dit « moi, je fais rien, mais au moins, je fais pas semblant ».
Alors, il y a ça, mais il y a aussi tu sais, la réponse, justement, de Sébastien qui fait « meuf, mec, en fait, tu fais juste ça pour choper des meufs ».
Moi, c'est ouais, ça que c'est, t'as jamais autant niqué de meufs depuis que t'es féministe.
C'est ça.
Parce que j'en ai vu des escrocs, quoi. Des copines qui viennent me raconter qu'elles ont fait des dates avec des mecs qui leur sortaient « je viens de lire King Kong Theory et ça m'a bouleversé ». Et qui après les ghostaient.
Non.
Ben ouais, c'est... Mais comme je pense que des gens draguaient en se faisant passer pour des maoïstes dans les années 60, quoi.
Ouais, clairement. En fait, peut-être, enfin, tu sais ce que c'est le pire, je crois, c'est qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, mais ils ne se rendent pas compte que dans leurs actes, ils n'y sont pas du tout, en fait.
Oui, et puis, je pense que ce n'est pas grave de ne pas l'être. C'est pas très
sincère,
grave.
Tu veux dire?
Non, de ne pas être engagé pour une cause ou une non. autre. Moi, j'ai le droit de ne pas être concerné par ta cause, mais de voir ton humanité et de bien me comporter parce que je représente l'éducation que ma maman m'a donnée. Ça s'arrête là, en fait. Déjà, ou ça devrait commencer là.
Ouais, ça devrait commencer là.
Donc, j'ai pas à juger ou à faire semblant d'être partisan d'une cause alors que c'est faux. Mais c'est toujours les gens qui utilisent, parce que là je te parle du féminisme, pourquoi on a mis cette vanne sur le féminisme, ouais. Parce que quand on prend la difficulté d'être une femme à notre époque et que les gens pensent que les féministes sont des folles,
des chiennes de garde,
sont des chiennes de garde, et que les femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou qui se font violer, que les inégalités salariales, que ce qu'on inflige aux femmes racisées, les injonctions qu'on leur met, c'est du fantasme. Là, il y a pas de quoi draguer quelqu'un, en fait, avec tout ce magma de douleur et de complexité auquel moi, malheureusement, j'ai pas toutes les clés.
Donc, il y a pas toi, personne.
Voilà,
clés,
mais j'irai jamais avoir un postulat de dire moi, je représente ça. Alors on a tous fait de la merde, on a tous à apprendre sur ces sujets-là, et je préfère garder la position du candide plutôt que du mec incroyablement au fait de toutes les luttes.
C'est clair.
Ça serait faux.
Sur ce sujet du féminisme, moi j'ai tendance à dire, tu sais, il y a beaucoup de mecs qui te disent non mais tous les mecs sont pas pareils, moi je suis pas pareil, etc. Et moi j'ai tendance à penser l'inverse, c'est-à-dire...
On est tous les produits du même système.
Bah ouais.
À partir du moment où le système est créé par des dominants, il y a forcément des personnes qui sont dominées. Et les femmes en font partie.
C'est clair. Et surtout, comme c'est une culture, t'es forcément... En fait, enfin, c'est terrible, mais c'est comme ça. T'es forcément baigné dans cette culture et t'as forcément des relents de cette culture. C'est impossible d'être complètement... tu vois, c'est comme les gens qui disent « je vois pas les couleurs ». Enfin, tu vois, c'est là, tu... Comment ça, tu vois pas les couleurs? Parce que moi, en étant noir ou en tout cas métisse, je les vois les couleurs.
Il y a des gens qui disent ça.
Bah, bien sûr, il y en a plein.
Ouais, mais je vois pas les couleurs. C'est comme moi, je suis nostalgique de la France où tout le monde s'entendait bien. En fait, non, tout le monde s'entendait pas bien parce qu'en fait, on n'avait pas accès à tes restaurants.
On n'avait pas accès. C'est juste qu'on se voyait pas, en fait.
En fait, on te servait. Donc, c'est super, on s'entendait bien. Tu me laissais un pourboire. Tu vois? Mais comme à l'inverse, un truc de racisme que je trouve dingue, c'est les gens qui disent ah ouais, c'est en bourgeoisie. C'est le pire truc de racisme. C'est-à-dire que tu considères que je n'ai pas le droit d'avoir les mêmes privilèges que tes parents.
Ouais.
Ce que tu as eu à la naissance, je n'ai pas le droit de l'avoir acquis. Ça, c'est insultant. C'est très vrai. Insultant.
Ça fait penser à la, justement,
tu parlais de tu me kiffes si je te sers, si je te fais des blagues et si je te sers un café ou si je te conduis ou si je te livre un Deliveroo. Mais on n'a pas le droit d'être à la même table, quoi.
Ouais. Ça me fait penser à la partie avec Omar Sy, parce que c'est vraiment ça aussi, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Mais moi, j'ai trouvé, on en a parlé avec Omar Sy, avec Jamel, les gens qui disent, ouais, ils se sont embourgeoisés. C'est-à-dire qu'ils se sont mangés le racisme en grandissant.
Ils se le mangent après encore.
Ils se le mangent en réussissant. Et il y a un livre qui en parle très très bien, c'est Le Retour à Reims de Didier Ribon. mmh. ou ce que fait Édouard Louis. Mais il y a ce truc qui nous colle à la peau, quoi. Moi, je trouve ça encore plus insultant. C'est comme quand t'arrives dans une fête et qu'on dit « Ah, t'es là, toi ?»
Bah, ouais.
Voilà. C'est... Mais j'ai pas prévu. Ou comme... Il y a une phrase dans le film qui est lourde de sens, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui dit « Va te faire enculer, toi, t'es tolérance. » La tolérance, c'est une insulte. Moi, je veux pas qu'on me tolère, en fait. Quand tu tolères quelqu'un, c'est-à-dire que de base, il est relou.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tolérer, c'est horrible, en fait.
C'est horrible, tolérer. Ne me tolère pas. Je préfère quelqu'un qui ne me tolère pas et qui me le dit que quelqu'un qui veut me tolérer.
Non, mais j'avoue, c'est hyper... J'avais jamais pensé, mais effectivement...
C'est pour ça qu'il y a un réalisateur tolérant.
Ah ouais, putain, j'avais pas fait gaffe.
Mais ouais.
Tu vois, je l'avais pas capté, ça, là.
Mais ouais, ouais.
C'est vrai que c'est comme la diversité, tu vois, c'est un truc qui me...
C'est comme vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est insultant, le vivre ensemble. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on se batte pour qu'on ait le droit de respirer le même air, quoi.
Ouais. Ça fait penser à un truc. Ouais, ça fait penser à un truc qui m'est arrivé ce week-end, mais où tu sais, j'étais en train de discuter avec un mec et dans un truc où évidemment il y avait que enfin bon, moi je faisais pas partie du truc, quoi, clairement. Et à la fin, il me fait ah oui, parce que c'est vrai que depuis le début, je me demandais ce que c'était, qui était cette personne un peu qui avait l'air intéressante.
Ouais, voilà.
Il essayait de se sortir de son truc et c'était tellement gros, c'était énorme. Mais et en même temps, bon, moi maintenant je le regarde avec sourire, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la double peine du racisme, c'est-à-dire.
Ouais. Et c'est même pas une double peine parce que je préfère vivre ce genre de problème.
Bien sûr.
Qu'un racisme qui t'emmène en prison ou à te prendre une balle dans le dos
bien sûr.
Lors d'un contrôle. Donc ça va. Ça va. Les vrais problèmes du racisme, c'est quand tu trouves pas de travail, quand on te marginalise, que t'es rejeté par ta belle famille. Mais j'ai toujours eu un problème profond avec la. C'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à la gauche française, en fait. J'ai un problème avec ce qu'ils ont fait de ce formidable élan qu'il y avait dans les années 80, qui était la marche de l'égalité, qui est devenue la marche des beurs. Déjà, beurre, ce mot, il est dégueulasse. Tout d'un coup, on les a défrancisés, c'était les beurs. Et puis après, on a fait « touche pas à mon pote », c'était les potes. C'est pas les égaux, c'était les potes. Donc le mot égalité, il a disparu. On a mis dans les quartiers des gens pour jouer les grands frères. Les gens, ils n'avaient pas besoin de grands frères, en fait. Ils avaient des grands frères.
Oui, bien sûr.
Ils avaient juste besoin de perspectives, d'éducation, de moyens. Et quelque part, c'est pas étonnant que la personne qui soit derrière tout ça, c'était François Mitterrand, qui était juste un mec de droite qui s'est servi de la gauche pour se faire élire.
Clairement.
Donc on a eu un François Mitterrand qui a participé au régime de Vichy, qui s'est fait passer pour le roi des antiracistes. Il y a quand même un petit problème, les gars. Il y a quand même un petit problème dans ce pays, quoi.
C'est clair.
Vraiment.
Et qui a laissé l'extrême droite monter, parce qu'en fait, en gros, le fait de ne pas pouvoir parler de l'extrême droite...
Ça a été le promoteur de Jean-Marie Le Pen. Mais comme aujourd'hui, Emmanuel Macron joue à ce jeu-là avec, ouais. Avec les gens les plus extrêmes. Il est très content quand ils ont la parole partout, parce que lui, il passe pour un mec de raison.
Oui.
Donc...
Oui, mais c'est vrai. Mais c'est, je pense qu'il peut se faire jouer, il peut se faire voir à son jeu. Mais
il ne cherche qu'une chose, c'est être face à Marine Le Pen. C'est un truc... Donc, le jeu est biaisé, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai tout de suite décroché du politique. Je pense que l'enjeu, aujourd'hui, c'est de revenir au tissu associatif, que les gens s'auto-organisent, qu'ils aient une volonté d'autodétermination et qu'on soit capable de ramener juste... c'est un mot qui peut être lourd de sens, c'est une touche d'espoir. Voilà. Les méchants, c'est un film qui amène une touche d'espoir aux kids.
Et c'est beau ce que tu dis, parce que en fait, dans un monde... enfin, c'est beau, ça peut sembler un peu débile de dire ça comme ça, mais dans un monde où on nous sert beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles, et sincèrement, malheureusement, on va en avoir de plus en plus, c'est, je trouve, hyper important qu'on nous donne aussi de l'espoir. Enfin, tu vois, qu'il y ait des contenus, enfin, ouais, médiatiques, enfin, qui nous donnent aussi de l'espoir.
Et qu'on s'adresse à tout le monde. Moi, j'étais très fier des Françaises et des Français quand on leur a dit « Vous allez rester chez vous pour protéger vos aînés. » C'était magnifique. Mm. C'était magnifique. On est tous restés chez nous pour protéger nos aînés. Voilà.
C'est un très beau geste.
Ouais, c'était impossible de négocier, en fait. Même si on est devenus ouf, tous.
J'avoue.
On était content d'applaudir les gens du service public à nos fenêtres à 20h. Mmh. Et il y a des métiers formidables. Donc là, comme tu le dis, on va traverser des périodes de plus en plus compliquées parce qu'on va le payer, le Covid. Économiquement, on va le payer.
Ça, et puis la crise climatique. Enfin, moi, je pensais à ça, je pensais aux réfugiés climatiques.
Voilà. Mais le Covid, les origines, elles sont encore impossibles. C'est impossible d'enquêter sur la Chine. Mais... Bon. Je pense que malheureusement, vu le dérèglement de la planète, moi j'ai un pote qui traîne dans un square que j'aime bien aller voir. T'as l'impression que c'est un mec du Wu-Tang, sauf qu'il a 80 piges et qu'il joue au GSEC. Il m'a dit, mais c'est la planète qui est en train de nous tège.
Ouais.
C'est la planète qui nous jette là.
Bien sûr.
Et elle est lourde de sens, cette phrase. Donc... on a jeté tellement de choses dans la planète que là, elle est en train de nous jeter.
Mais c'est exactement ce que fait n'importe quel être, enfin, corps vivant avec un...
Avec un virus.
Avec un virus, ouais.
Le virus de la Terre, il était plus obsédé par avoir un iPhone, du coltan. Du coltan, on dit, c'est ça?
Je ne sais pas comment on dit.
Elle est pillée des ressources pour pouvoir envoyer des SMS.
Et poster des vidéos sur TikTok.
Ouais, voilà. On en est là, quoi. Donc... Non, c'est parce que maintenant on y est dans le réchauffement climatique, on y est. La crise, la planète, elle va se dégrader. Moi, j'ai des potes qui me disent, je sais même pas si je vais faire des enfants.
Je confirme.
Donc, on est en plein là-dedans. Autant être un minimum solidaire et tenir la tête haute, quoi.
Je pense que solidaire, ça va être un mot. Je sais pas si on va y arriver, mais pour moi, tu vois, j'ai fait un épisode avec Ina Moja, tu sais, sur l'Afrique et justement sur les réfugiés climatiques. Je préfère dire réfugiés climatiques justement que migrants parce que la réalité, c'est qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux.
Non, mais surtout que migrants, on a l'impression que c'est un métier.
Mais non, mais...
C'est totalement... on n'est pas un migrant, en fait.
On est tous migrants, de base.
Et puis déjà, on fuit quelque chose.
C'est ça.
C'est des gens qui fuient des trucs. C'est pas un choix. Il faut comprendre. Il faut juste se mettre à la place de quelqu'un. Imagine demain en France... Il y a une guerre de ouf. Imagine le courage qu'il faut pour se dire « Ok, j'abandonne tout ce que j'ai là. » Ça fait des siècles qu'on est là. J'abandonne tout pour aller dans un endroit qui ne veut pas de moi. Pour donner à mes enfants quelque chose d'un peu mieux.
Avec des risques de malade entre les deux.
Hein. Avec des risques de malade et de crever sur le chemin. Imagine juste le courage. Le courage. Et encore une fois, moi, j'ai pas la solution.
Non, non. Bah...
J'ai pas la solution. Je ne l'ai pas. J'aimerais bien te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Je l'ai pas. Je sais pas comment réguler ces choses-là. Je sais pas.
Je suis plus ou moins d'accord parce qu'en fait, je trouve que ton film, pour le coup, il en donne une partie de la solution. Parce qu'en fait, c'est la solidarité la solution. Enfin, tu vois. Donc, tu l'as quelque part. À ton niveau, je veux dire, t'as pas la solution ultime dans l'absolu, mais à ton niveau, tu participes à la solution. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en fait.
Oui, mais là, le problème est tellement grave que j'arrive même pas à avoir un avis, en fait. Tu vois, le film, c'est une expression artistique. C'est pas un projet politique. C'est pas un pamphlet.
Non.
C'est l'expression artistique d'un ressenti et d'un malaise qu'on a tous traversé au bout d'un moment. Et c'est pour ça que ce film, j'ai l'impression qu'il concerne autant de gens. J'ai malheureusement pas la solution face à ça, comme j'ai pas la solution... j'ai aucune solution, en vrai, sinon je changerais de métier.
Non, je changerais de métier. Mais en même temps, c'est pour ça que moi, je voulais faire ce podcast.
J'ai une solution saline.
Voilà, c'est déjà pas mal.
Voilà.
Mais c'est pour ça que moi, je voulais faire le podcast, parce que justement, je trouve que... Enfin, moi, mon idée, en tout cas, c'était de me dire... il faut que ça enfin, ce podcast, ce film, tu peux le voir effectivement, comme tu l'as dit, comme une comédie et ne pas rentrer dans les sujets. Mais moi, justement, tu vois, l'idée, c'est de se dire, en fait, il faut que ça génère de la conversation. Il faut que les gens en parlent et qu'on se dise. Ouais.
Mais c'est pour ça que c'est un film à aller voir en bande, en fait.
Ouais. Hyper important.
C'est un film à voir en bande. Moi, ça me manque les films qu'on va voir en bande. C'est à part Infinity Wars.
C'était super intéressant. On va devoir s'arrêter parce que je vais pas te garder non plus des heures. Mais ce podcast s'appelle Vlan.
J'ai une nounou, donc elle me garde déjà. Dérive totale.
Ce podcast s'appelle Vlan. J'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Tu peux soit ouvrir, soit fermer, soit les deux, comme tu veux.
Je voudrais l'ouvrir à tout le monde pour qu'ils aillent prendre leur carte d'électeur et voter. Tout simplement. C'est gratos. Et ça t'évite de payer l'addition très très cher.
Et comment tu fais confiance aux politiques du coup? Comment tu fais confiance aux politiques derrière?
Lis le programme et vois ce qu'il y a de moins pire ou de ce qui te parle. Mais au moins si tu votes, tu vas orienter les choses.
Clairement. Clairement. Et surtout au niveau local d'ailleurs.
Et surtout au niveau local. Et encore une fois... je crois que j'ai de problème avec aucune opinion.
Ça, c'est assez beau. Je trouve ça. Justement, tu parlais de. Tout à l'heure, on parlait de. Tu vois, de rassembler, etc. Je trouve ça génial que tu puisses passer ces messages-là aussi, en fait.
Bah, merci.
Non, c'est vrai. Merci beaucoup à toi.
Merci à toi.
À plus.
Bye.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !